Vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, heureux de vous retrouver ici au milieu des vignes, c'est la saison des vendanges et des foires au vin. Eh bien nous voilà en Gironde, dites donc. Nous sommes à Listrac-Médoc précisément, au château Lestage, et on a un très beau menu pour vous jusqu'à midi et demi. On va décrire les lieux déjà, nous sommes dans une très belle pièce du château, avec vue sur le parc, les vignes juste à côté. Donc on va faire de belles vendanges avec Ophélie Neyman qui est des nôtres, on va vous la présenter dans un instant. Nous allons aussi vous éclairer sur les différentes foires au vin, bonnes affaires ou trompe-l'œil, eh ben on va tout vous dire. Et voici donc mes bons vivants du jour déjà attablés. Quand il est question de vin et de voyage, elle n'est jamais bien loin. Miss Glouglou pour les intimes, c'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
C'est un endroit qui vous est familier, ça, un château,
des vignes.
J'aime bien
venir dans le Médoc, hein, j'aime beaucoup venir dans cette région. C'est pas pour le relief, hein. On peut pas dire que ce soit qu'il y ait beaucoup de collines,
c'est vrai.
C'est très très plat, mais enfin, c'est beau.
Et on est au château Lestage, très bien reçu. Il s'est rapproché de son Béarn natal pour échauffer son bel accent du sud-ouest, le bistronome en chef Yves Candebord et les nôtres. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Ophélie. C'est vrai que je vois pratiquement les Pyrénées.
Oui.
Ça me met un appétit.
Le pays n'est pas loin.
Le pays,
le pays, le pays. Et c'est pas fini. Écoutez, chers auditeurs, on va mettre les petits plats dans les grands ce samedi. Le chef Christian Constant a fait le voyage avec nous. Il va très bientôt laisser les clés de son dernier café parisien, Cyril Lignac. On va prendre le temps de se pencher sur le bel héritage qu'il laisse à notre gastronomie. Émission spéciale autour du chef Constant tout à l'heure. Restez bien avec nous jusqu'à midi et demi. Avant notre petit rituel du goût de la semaine, je voudrais qu'on dédie cette émission, eh bien, au magnifique qui nous a quittés cette semaine, au grand bébel Jean-Paul Belmondo, qui était un bon vivant, vous le confirmez, Yves Candebord aussi.
Oui, hein. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui aimait la table, et surtout que je pense qu'il aimait les hommes, qui aimait se réunir autour de la table et du vin, partager, voilà, discuter, batailler, voilà, qui donnait beaucoup de lui. On va le regretter, mais on est content parce qu'on a passé des grands moments avec lui.
Et très bel hommage avec ce final, si je puis dire, avec lui qui s'en va avec cette musique du professionnel et les gens en larmes à l'intérieur et à l'extérieur avec cette belle communion avec le public.
Je pense qu'on peut le dire, c'était magnifique.
Voilà, c'était l'as des as. Voilà, donc on lui dédie cette émission à Monsieur Belmondo. Petit rituel, vous connaissez le début, hein. Quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question à la maison, en voiture. Je vous pose la question, Ophélie Neyman. Votre goût de la semaine?
Moi, j'ai découvert un accord que je ne connaissais pas, c'est le vin orange et la cuisine coréenne, plus particulièrement le kimchi, figurez-vous. J'étais chez un petit coréen, alors franchement de la rue Ticton, mais qui paye pas de mine.
À Paris, dans le deuxième.
Ouais, et je regarde la carte des vins, et là je vois qu'il proposait 4 vins rouges, 2 vins blancs, 7 vins oranges. Alors c'est tellement rare des vins oranges, c'est pas des rosés, hein, je
préfère. On en a parlé ici déjà, oui, absolument, blanc de
macération. Je me dis, bon bah, je vais tenter le vin orange avec un plat coréen, mais vraiment sans conviction. Avec un bulgogi pour moi, avec un poulet croustillant pour la personne qui m'accompagnait, et le vin orange était incroyable. Ça s'entendait bien, ça se mariait bien avec les épices, ça résistait.
Oui, c'est vrai.
Face à la force du kimchi.
Une belle fraîcheur.
Ah, c'était dingue.
Votre goût de la semaine, Yves Candebord?
Eh bien, mon goût de la semaine, moi, il vient des Charentes. Des Charentes, il vient pas à côté de La Rochelle, c'est la moule de Charon. Voilà. On est en pleine saison de la moule.
Capitale de la moule. Hein.
Capitale de la moule. Et en plus, on a une saison exceptionnelle, il faut en profiter. Et c'est vrai que la moule, moi, je l'aime parce que je trouve que c'est un plat de partage. Alors, on fait une belle poêlée de moule avec de l'échalote, du vin blanc. J'adore y mettre un peu de gingembre et de la citronnelle. On met ça au milieu de la table. Et le plaisir avec les enfants, parce que les enfants, souvent, ils aiment les moules.
Bien sûr.
Ils aiment ce produit de la mer.
Parce que c'est doux.
Laurent, de manger avec les doigts.
Mais bien sûr.
De se sucer les doigts.
On se brûle les doigts.
Moi, mes souvenirs d'enfance, à moi, c'était le seul moment où j'avais le droit de mettre les doigts dans le plat. Et quel bonheur.
Mon goût de la semaine, c'est la sébaste. Vous savez, c'est ce beau poisson qui ressemble à une rascasse. D'ailleurs, on l'appelle la rascasse de la Manche. J'ai acheté ça sur un marché parisien la semaine dernière. C'est un tarif abordable. On la trouve entre 10 et 12 euros le kilo, la sébaste. Je l'ai rôti simplement au four avec plein de belles tomates cerises autour, des gousses d'ail. Et c'est la saison des cocos de Paimpol aussi, que j'avais juste blanchi comme ça très rapidement. Et je les ai mis avec les belles tomates au four. Et c'était un joli accord, ça, la sébaste, avec les cocos de Paimpol et les tomates cerises. 25 minutes de cuisson à 180 degrés, c'est un beau plat de saison et abordable en plus.
Allez,
c'est l'heure d'aller au marché les amis. Marion Sauveur est allée à votre rencontre au marché des Capucins à Bordeaux, nous sommes en Gironde, je vous le rappelle. Elle vous a demandé quels produits locaux vous avez mis dans votre panier. Tiens, eh bien on vous écoute.
Bonjour.
J'ai acheté de quoi faire un plateau de fruits de mer, notamment des huîtres, des grosses crevettes, des bulots, vous voyez, c'est pour faire une surprise, voilà, à des invités.
Je ne sais pas si c'est régional de Bordeaux, mais c'est régional du sud-ouest de la France, et bien sûr les canards.
Magret ?
Les magrets, oui, bien sûr, les magrets.
Et vous le faites comment ?
Comme on m'a conseillé, la peau, après un feu pas trop costaud, et après je retourne pendant une, deux minutes de l'autre côté, et c'est fait. C'est super bon.
J'ai acheté un producteur qui produit dans le Lot et en Charente, donc ça reste très local. Un beau melon, des tomates, des poivrons.
On vient renifler un petit peu l'ambiance du marché ici. Alors on doit se régaler avec, avec des petits huîtres. Enfin. Venir à Bordeaux, n'est-ce pas, donc je vais pas boire un petit coup de blanc. Non, ça marche pas, ça.
Ce serait dommage.
Oui. Je vais acheter des chocolatines.
Parce qu'un pain au chocolat, pour nous, c'est une baguette avec des carrés de chocolat et non pas une viennoiserie.
Ah, et ben voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver, de vous entendre sur les marchés du canard, du melon. On est bien dans la région et on est bien dans la saison. Et d'ailleurs, le canard et le melon ont des choses à se raconter dans l'assiette, Yves Candebosse.
Oui, c'est un mariage qui fonctionne, sucré-salé. On sait bien que le canard supporte le sucre. Et je pense peut-être que c'est l'un des matières premières, des produits qui supportent le plus le sucre. Mais moi, quand même, Bordeaux, c'est la charcuterie. On ne le sait pas, on ne le dit pas souvent, mais c'est un pays des charcuteries, des tricandilles.
Ah, dites-nous ce que c'est, tiens, les tricandilles.
C'est des tripes qui sont travaillées de façon assez simple pour finir parce qu'elles sont nettoyées, elles sont pochées. Et moi, j'adore les associer. Une fois qu'elles sont juste pochées, je les repoile pour les croustiller, bien les croustiller. Et j'adore mettre dessus un produit de la mer. Alors, il y a des petits œufs noirs, vous savez, ce qu'on appelle les avrugas. C'est des œufs de hareng fumé. Ça remplace le caviar, parce que le caviar est un peu onéreux.
Ce qu'on appelle les perles de hareng, oui.
Voilà, juste accompagné d'une petite cuillère à café de ces œufs, je peux vous assurer qu'il y a un terre et mer avec la puissance, la profondeur, voilà, de cette tricandille, de ces tripes, avec la mer, c'est très très bon.
C'est quoi la région pour vous, tiens, justement, vous avez envie de ramener quoi dans vos valises, à part les caisses de vin que vous avez déjà stockées,
Ophélie Neyman. Bien sûr, du vin. Et alors, je voudrais réagir. Il y a du blanc à Bordeaux, et il y a du très bon blanc. Il y a les blancs secs à base de Sauvignon qui sont déjà très fruités, et certains peuvent se garder, hein, pour peu qu'ils aient été élevés un peu en barrique dans les graves. Regardez les graves blancs, ils ont 10-15 ans de vieillissement, ils sont magnifiques. Et on n'oublie pas les liquoreux. Les liquoreux, on a tendance à les oublier, à les garder pour le foie gras. Non, 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 vous pouvez boire du liquoreux avec d'autres choses. Essayez un jour, liquoreux poulet rôti.
Et avec un cannelé, tu aussi, on a un joli cannelé de Luc Derain, qui est pâtissier chocolatier à Bordeaux. Le cannelé, ça aussi, c'est la petite douceur locale. Allez, ne bougez pas, nous sommes bel et bien en Gironde. On revient dans un instant et je peux vous dire une chose, on va vendanger. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est la saison des vendanges, la saison des foires au vin aussi. Alors voilà pourquoi nous avons choisi de délocaliser notre émission dans le Médoc, au domaine de l'Estage, au château l'Estage précisément. Et je vous présente le maître des lieux. Est-ce qu'il est maître de chez ? Tiens, on va lui poser la question. C'est Loïc Chanfraud. Bonjour Loïc.
Bonjour Laurent.
Merci de nous recevoir.
Mais de rien, c'est un grand plaisir de vous avoir ici.
On est dans le château avec vue sur le parc, hein. Les vignes sont pas loin. Beau domaine, hein, expliquez-nous la superficie.
Alors, c'est un vignoble qui fait 45 hectares, situé sur le point culminant du Médoc, à 44 mètres d'altitude.
44 mètres d'altitude, oui, c'est pour ça qu'on parlait du relief tout à l'heure. Voilà, le relief est doux, mais c'est ce qu'il faut pour les vignes. Quel cépage vous travaillez ici alors ?
Alors ici, on a beaucoup d'argilo-calcaire à l'Istrac, avec quand même un peu de grave pyrénéenne. On est, pour le château l'Estage, sur une dominante de Merlot.
Et le château dans lequel nous sommes précisément, c'est un château qui date du 19e siècle, c'est ça ?
Exactement, il a été construit en 1870.
Une belle histoire de famille parce que vous y avez passé du temps et il y a plusieurs générations, hein, qui se sont succédées ici.
Ah, tout à fait, c'est mon arrière-grand-père qui en a fait l'acquisition en 1963 et ça a été ma première demeure où j'ai pu faire mes premiers pas.
Et le premier verre de vin, quand on grandit dans un domaine, ça a quel âge ?
Dans le biberon, Laurent.
Je dois dire à 18 ans.
Non, moi je vous crois pas. Mais ça, c'est...
J'espère là... pas parce que la frustration
est terrible. Oui, c'est terrible.
Pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens pas, mais mon papa qui est pas loin
Il a les dossiers peut-être, papa. Alors on va parler de votre vin, Château Lestage à l'Istrac-Médoc ici. Et je signale aux auditeurs que ce vin, on le retrouve en ce moment à la foire au vin d'automne Intermarché jusqu'au 26 septembre. C'est un vin qui a été sélectionné. Et on va parler d'un millésime qui est important pour vous. Dites-nous lequel, tiens, Loïc.
Tout à fait. On est sur le millésime 2016, Château Lestage. Donc il est particulièrement important pour moi et pour mon frère parce que c'est le premier millésime qu'on a suivi de bout en bout depuis la sortie de la première feuille dans le vignoble jusqu'à la mise en bouteille. En plus, c'est un super beau millésime.
Alors, on va déguster comme on le ferait tiens, avec vous pour votre journal Le Monde, par exemple, Ophélie Neyman, et puis pour vous ici, quand vous dégustez. Maître de chez ou pas maître de chez? Alors, tiens, je posais la question.
Ah non, moi, je ne suis pas maître de chez. C'est plutôt mon frère, Guillaume, qui s'occupe du volet technique, même si on se partage le travail au moment des
vendanges. Oui, encore une histoire de famille jusqu'au bout. Alors, au nez, qu'est-ce que ça donne alors?
Alors, on est vraiment dans le classique de 2016, parce qu'effectivement, c'est un très, très beau millésime, mais c'est un millésime qui a été plutôt chaleureux, hein, solaire. Donc on va retrouver cette richesse, on retrouve des fruits qui sont très mûrs. Et puis on a une petite patine de boisé qu'on va retrouver aussi en bouche, hein, qui va apporter de la rondeur et de la sucrosité, qui va permettre de tapisser un petit peu les tanins. Et à la fin, en bouche, c'est quand même beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise dans ce vin.
C'est vrai qu'il y a de la rondeur, comme vous dites, parce qu'on peut avoir peur parfois avec certains Bordeaux sur le côté très tannique, justement.
Oui, non, il n'y a pas du tout cette pâte agressive.
Là, il y a un équilibre.
Qui séchante des tanins.
Bah, c'est le merlot ce qui fait ça, non?
Oui, tout à fait. Mais c'est surtout, je pense, la bonne connaissance du vignoble et la date des vendanges au bon moment pour toujours garder, c'est ce qu'on fait sur l'ensemble de nos vins, une belle fraîcheur et un bon dosage du boisé.
Et si vous deviez conseiller un plat avec ce vin?
Je dirais une belle côte de bœuf pour la manière dont il se présente aujourd'hui.
Rouge sur rouge, rien ne bouge. Une belle viande rouge avec un beau rouge de Bordeaux, ça c'est un bel accord. On parlait des vendanges, un petit mot sur les vendanges, ça commence quand?
Alors on va attaquer, on a une petite parcelle de blanc qu'on va ramasser à partir de lundi prochain et je pense que les plus jeunes merlots vont commencer à rentrer au chai la semaine du 20 septembre.
Vous travaillez comment? Alors parlons un petit peu des méthodes, traitement des vignes, biodynamie, sulfite, pas sulfite, c'est tous les débats du moment ça.
Alors nous on est plutôt dans une conduite du vignoble classique, on est certifié Terravitis, on est certifié haute valeur environnementale, donc on travaille les sols, on désherbe plus les vignobles, donc on est vraiment dans le respect de l'environnement.
Raisonné et raisonnable, comme on
voilà,
dit,
exactement.
C'est ça?
C'est ça, c'est bien, ces deux mots qui nous vont bien. On va parler bonnes affaires, parce que c'est la saison des foires au vin. On le trouve à quel prix, Intermarché par exemple, en ce moment, ce Château Lestage 2016?
Il est à 10,90 € en foire au vin chez Intermarché.
Au lieu de 16 € ici au domaine. Donc comment on arrive justement à faire des bonnes affaires, de votre côté, à continuer à gagner votre vie et à rencontrer le public dans les foires au vin? On joue sur les volumes?
Faut dire que oui, déjà on joue sur les volumes parce que là on a une belle opération nationale et on joue aussi sur la confiance qu'on a avec Intermarché. Lestage Intermarché, c'est une longue histoire. On travaille avec eux depuis l'année 1980.
Oui, donc c'est une histoire de fidélité aussi.
Moi, je voudrais quand même saluer ce millésime, hein, parce que c'est quand même très rare aujourd'hui en foire au vin de trouver un 2016, c'est-à-dire qu'il est prêt à boire. Généralement, dans les foires au vin, on va trouver des 2018, des 2019 pour Bordeaux.
Des vins jeunes,
et des vins voilà, qui ne sont pas prêts et qu'il va falloir attendre. Et tout le monde n'a pas les moyens de stocker aujourd'hui dans des bonnes conditions le vin pour le faire arriver à maturité. Et celui-ci, il est prêt à boire. On peut y aller dès maintenant. Et ça, c'est quand même un bel effort que je tiens à saluer.
On trouve cette année des vins de Bordeaux AOC vraiment pas chers dans les foires au vin, Ophélie. Qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là? Ça veut dire qu'il y a trop de stock et qu'il faut écouler la marchandise?
C'est ça. Il y a eu un petit scandale, notamment sur la foire au vin de printemps, puisqu'on a trouvé des châteaux, des Bordeaux, hein, des AOC Bordeaux à moins de 2 € chez Lidl, notamment à 1,67 €. Mais il n'y avait pas que Lidl. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé chez Leclerc, il était à 1,66 €. Chez Auchan, on trouvait un Bordeaux à 1,50 € et un Bordeaux supérieur à 1,67 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les cuves, le Bordeaux en vrac était à 80 centimes le litre, tellement il fallait le liquider. Les stocks débordaient, en fait, les cuves débordaient. Il faut quand même vider les cuves avant la vendange qui arrive. C'était déjà le cas en 2019. 2020, les restaurants fermés, les exportations arrêtées. Bon, ben, on arrive en 2021 avec des cuves pleines qu'il faut vider et du coup, des très, très bas prix pour Bordeaux.
Et 2021, Loïc Chanfraud, une année compliquée aussi pour la vigne, là.
Une année très compliqué, je pense, d'un point de vue national. Axel nous en parlera tout à l'heure. Mais
Axel Bordeaux, Marchal, c'est... absolument, professeur des universités en œnologie, qui est là et qu'on salue. Tiens, bonjour Axel.
Bonjour à tous.
On va vous entendre dans un instant après la pause.
Pour Bordeaux, on est sur un millésime où on a eu quand même un gel de printemps qui a été assez fort, donc qui a touché une grosse surface, puis un été assez humide en début de période. Donc il a fallu être très précis et très réactif pour réussir à produire des beaux raisins cette année, en effet.
Eh bien, les vendanges, ce n'est pas que dans le Bordelais. On continue justement notre tour de France dans un instant avec vous, Axel Marchal. Et on va parler justement des vendanges, du réchauffement climatique aussi, et puis des différentes régions qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
La fin de l'été avec les vendanges et les foires au vin, c'est la saison du vin. Eh bien, nous sommes sur le domaine L'Estage, au milieu des vignes, à Listrac-Médoc, et on continue notre tour de France des vendanges. Et nous a rejoint Axel Marchal, professeur des universités en œnologie, qui dispense aussi des cours à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Bonjour Axel Marchal.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes dans votre élément ici.
Oui, effectivement, le Médoc est un endroit où je vais souvent, et la proximité avec les vignes est toujours un plaisir.
Alors, on parlait effectivement des vendanges, vendanges tardives, vendanges précoces. Dans le Bordelais, précisément, on parle de quoi alors là aujourd'hui ?
Alors, ce sont des vendanges qui sont assez tardives par rapport au dernier millésime, puisqu'on a vendangé précocement en 2018, 2019, 2020. Mais si on regarde avec un peu plus de recul, c'est des vendanges qui ne sont pas si tardives que cela.
On parle souvent de la région Champagne qui ouvre le bal des vendanges. Ce n'est pas le cas cette année.
Non, effectivement, la Champagne a notamment eu des conditions climatiques difficiles avec un certain retard. Donc la Champagne ne commence pas. Bordeaux a commencé assez tôt, mais le sud aussi.
Alors est-ce que l'impact du réchauffement climatique, justement, va avoir une incidence sur les cépages qu'on va travailler en fonction des régions ?
Oui, effectivement, même si cette année, on ne peut pas parler d'une année d'un réchauffement, puisque les températures étaient assez basses par rapport aux moyennes. La pluviométrie était importante à Bordeaux, mais encore une fois, c'est variable en fonction des régions. Un dérèglement plus qu'un réchauffement, je pense.
La Bourgogne, ça commence quand ?
La Bourgogne, ça va commencer d'ici, ça va dépendre des endroits, mais d'ici une semaine à deux semaines, avec des épisodes de gel très marqués en Bourgogne.
On a vu les images, on se souvient des chaufferettes justement dans les vignes. Ouais.
Il faut comprendre pourquoi c'était un gel dévastateur. Parce que finalement, qui gèle début avril, c'est pas si rare que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 31 mars, on a eu limite une canicule. C'est le jour le plus chaud de tout le mois de mars enregistré depuis 1900. On n'a jamais eu un mois de mars aussi chaud. Donc les bourgeons sont apparus très tôt. Et puis le gel derrière les a tous tués.
Après, moi, je pense que, pour autant être un fils d'agriculteur, la nature, c'est la nature. Il faut vivre avec elle, il faut l'accompagner. Voilà, est-ce que le problème de l'homme et le problème de l'agriculteur, du vigneron, c'est pour pas vouloir toujours maîtriser la nature ? Je pense que c'est à nous à nous adapter à ce qui se passe.
Loïc Chanfroux, raisonnable et raisonné vis-à-vis de la nature, alors ?
Ah oui, tout à fait. Il faut beaucoup d'humilité pour faire du vin et parfois, c'est très frustrant.
Il y a eu des années très très compliquées. Vous avez dû faire face à des épisodes climatiques douloureux pour la vigne.
Ah oui, mon frère et moi, on est arrivé en 2016, début 2016. 2017, on a quand même un peu gelé. 2018, on a eu des grosses pressions de maladies. 2019, c'est très bien. Mais 2021 encore, c'est compliqué.
La Loire aussi, on a commencé dans la Loire, Axel Marchal, ou pas encore les...
Alors la Loire, pas encore, à l'échelle générale, pas encore, un retard dû au gel.
Et est-ce que vous ne pensez pas justement par rapport à l'évolution de la nature, parce que des règlements, c'est un mot, mais moi je pense l'évolution, comme l'être humain qui évolue, est-ce qu'aussi le vigneron ne doit pas s'adapter, trouver peut-être des façons de travailler naturelles différentes ?
Quand on fait du vin, il y a deux êtres vivants qui sont impliqués, c'est la vigne et l'homme. Et je pense que les deux s'adaptent et je suis assez confiant quand même sur l'évolution dans le futur.
Alors moi j'ai une inquiétude parce qu'on entend de plus en plus qu'on va imposer des cépages dans des régions pour que ces cépages soient plus adaptés au climat. Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce qu'on ne va pas à un moment donné mondialiser le goût en général de mettre des cépages identiques dans des régions qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces cépages ?
Moi, je pense effectivement que c'est une erreur. L'institut dans lequel je travaille est très attaché à la notion d'identité, de typicité. Et la typicité, elle passe aussi par les cépages. Quand on change les cépages, on risque de changer le goût et oublier son histoire, c'est mal préparer son futur.
Alors cette année, Ophélie, c'est une année un petit peu particulière aussi parce qu'on commence à percevoir les effets de la crise sanitaire sur le monde du vin aussi.
Oui, tout à fait. En fait, on a eu un petit ralentissement en 2020 parce que les restaurants étaient fermés, parce que les exportations se sont arrêtées. Donc on a des stocks qui ont augmenté. Donc fin 2020, on a beaucoup déstocké. Et puis là, 2021, ça repart, mais qu'à un quart, on pourrait dire. Donc on est un petit peu gêné parce que 2021, là, on table sur 30% de pertes hein, de récolte par rapport aux moyennes habituelles. Mais en même temps, comme on a peu vendu, c'est peut-être pas une malchance. Ça veut dire qu'on va éviter d'avoir des stocks inutiles.
Alors, je ne vais pas parler, bien sûr, du côté économique, parce que là, c'est compliqué, mais je vais vous dire, moi, en tant que restaurateur, mais quel bonheur qu'on décale d'un millésime. On a tendance, voilà, à boire des vins trop jeunes, voilà, parce qu'on l'a tous économiquement, autant le vigneron ne peut pas stocker que le restaurateur ne peut pas stocker. Et là, on va avoir une année, voire deux années de décalage, comme Ophélie vous le disiez, de boire du 2016. On n'en buvait plus des vins comme ça. On n'avait pas la chance de pouvoir l'avoir. Peut-être que ça va aussi, je dirais, donner une qualité supplémentaire au vin avec ce vieillissement d'une année, voire deux années de plus, qu'on ne pouvait pas faire ni les uns ni les autres.
C'est une chance pour le consommateur, oui. Pour le vigneron qui n'a pas les sous et l'assise financière, c'est très problématique quand même, hein, parce que ça veut dire que c'est des sous qui ne rentrent pas pendant deux ans. Alors, et là, c'est au niveau des banques qu'il va falloir faire attention.
Alors je lance un appel à mes collègues restaurateurs. Peut-être qu'il faut investir un peu d'argent chez des vignerons en leur disant, écoutez, on va vous préacheter le vin, vous le gardez et vous nous l'amènerez dans une année.
Loïc Chanfreau, vous êtes d'accord avec ça?
Ah mais moi, je suis tout à fait d'accord.
J'étais sûr, je savais que ça allait lui plaire, ça, c'est une belle décision. C'est la saison des foires au vin, nos auditeurs ont envie de faire de bonnes affaires. Qu'est-ce qu'il y a comme bonnes affaires en ce moment-là, justement?
Alors justement, puisqu'on en parlait, comme il y a du stock et qu'il y a des personnes qui ont besoin de vendre, on va retrouver parfois en foire au vin des vins qu'habituellement on ne retrouvait pas en grande surface, des vins qui étaient destinés à la restauration et aux cavistes qui vont se retrouver en foire au vin parce qu'il faut bien vendre un petit peu. Donc ça, c'est une des très bonnes choses. Et puis ensuite, on peut observer vraiment une baisse des prix. Je crois que chez Intermarché, ils ont baissé de 30% le prix moyen de la bouteille. On passe de 13,95 €, si ma mémoire est bonne, le prix moyen de la bouteille en foire au vin, à 10 € cette année. Et on retrouve par exemple chez Franprix, 90% des bouteilles sont à moins de 10 €. Chez Auchan, on a 75% des bouteilles à moins de 10 € et un tiers à moins de 5 €. Donc c'est vraiment l'année des petits prix.
Donc c'est le moment de refaire sa cave aussi. Hein.
Absolument.
De recréer des stocks.
Oui, après attention, on ne s'y habitue pas, c'est exceptionnel. L'année prochaine, on retrouvera des prix normaux. Il faut qu'on respecte nos vignerons, il faut qu'on respecte ces artisans pour qu'eux aussi aient la possibilité de bien vivre et de continuer à nous faire des belles bouteilles.
Eh bien, soutenons les vignerons, les amis, aidons-les en faisant des affaires. Merci Loïc Chanfreau pour votre accueil ici au Château Lestage. On reste ensemble jusqu'à 12h30. Et puis merci Axel Marchal et bonne année avec vos étudiants alors.
Merci beaucoup. Hein,
l'Institut
merci
du beaucoup. Vin et de la vigne. Ne bougez pas, rendez-vous avec un grand cru dans un instant. Le chef Christian Constant est notre invité dans le Médoc et on va se régaler jusqu'à 12h30. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Merci au passage, hein, chers amis, pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque samedi et ça nous fait plaisir. Notre invité, vous le connaissez, il a fait le voyage avec nous ce matin. Pour tout vous dire, on est parti en TGV et nous voilà dans le Médoc. Il est né à Montauban, il a fait briller les fourneaux de la capitale pendant des décennies. À la tête des cuisines du Crillon pendant 7 ans, il a donné le sens du collectif à une belle équipe de cuisiniers. Il quitte cette semaine son café de la rue Saint-Dominique à Paris pour passer le ballon à Cyril Lignac. Dans le métier, on l'appelle Monsieur Constant. C'est le chef Christian Constant qui est des nôtres. Bonjour Christian.
Bonjour Laurent, bonjour Yves, bonjour Ophélie.
Bonjour.
Bonjour. Je ne vous présente pas le petit board.
Non.
La fameuse équipe du Crillon.
Voilà, une belle équipe et Yves en a fait partie et a été le leader.
Merci beaucoup Christian d'avoir fait le voyage et d'être avec nous ici au milieu de ces belles vignes dans le Médoc. C'est une semaine particulière pour vous.
Ah oui, tout à fait. Cette semaine, on va faire du 7 au 25. On va faire un repas avec les anciens du Crillon, ceux qui ont été, qui m'ont accompagné tout au long de cette époque-là. Et ça a été une belle aventure. Et on a créé un menu ensemble. On a fait un joli pâté en croûte. On a fait une gelée d'araignée. On a fait un œuf moulé roulé à la truffe. Tout ça, c'était des plats que l'on faisait soit à l'obélisque, soit au Crillon. Et ensuite, il y avait une barre en croûte, un pigeon et un chou farci de homard.
Chou farci au homard, c'est voilà. Beau ça. Ouais. Chers auditeurs, tiens, écoutez les noms justement. Des poulains de Christian Constant. Il n'y avait pas Kif Candebord, il y avait alors, qui dans l'écurie alors?
Il y avait Éric Fréchon, Jean-François Piège, Emmanuel Renaud, Thierry Fauché, et je pense que je vais en oublier, Cadebord va m'aider sûrement. Il y avait qu'une
Christophe Felder,
bien sûr, le pâtissier
qui était Gilles Marchal,
voilà,
regretté Laurent Jeannin.
Il y avait une belle équipe d'ailleurs et qui s'en sont sortis et qui ont œuvré et qui ont une belle réussite maintenant. Et moi, je suis enfin, mais eux, ils débutent. Et quelle fierté d'avoir travaillé avec eux, parce que pour moi, ça a été une belle aventure.
N'inversez quand même pas les rôles. Quelle fierté d'avoir travaillé avec eux. Mais non, c'est la fierté, ouais, non, c'est nous qui l'avons.
Non, mais il y a toujours une émotion quand vous vous retrouvez tous les deux. Ouais. C'est ça que j'aime, parce qu'effectivement, il y a vraiment des souvenirs derrière cette belle histoire, Christian Constant. Il y a eu un sens de l'amitié, un sens du dépassement, de l'effort, de l'exigence. Vous allez lever le pied, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Bon,
je le vois pas à la retraite, Christian Constant.
Non, je vais changer de vie peut-être. Je vais peut-être pas continuer en cuisine, mais je vais aider les jeunes. Je vais essayer de me rendre utile avec et accompagner des gens. Pourquoi pas aller voir quelques restaurateurs, leur donner quelques conseils s'ils le veulent. Et voilà, mais je pense que je ne peux pas m'arrêter. Je pense que le 30 septembre, j'ai vendu. Donc, le 1er octobre, je pense que j'habite pas loin du restaurant. La première sortie, ça va aller boire un café là où j'ai travaillé pendant des années.
Ça, c'est, en tant que client, ça va faire bizarre, ça. Hein,
ah oui. Hein, bon, je pense que mon cerveau va aller vers là directement, mais je vais essayer de le détourner.
Et alors, on ne va pas tout vous dire, mais on a plein de surprises pour vous jusqu'à midi et demi. Restez avec nous, chers auditeurs, parce qu'on a un joli casting que vous allez entendre à la table des bons vivants. Mais juste avant, quel est votre goût de la semaine, cher Christian, le goût qui a marqué votre semaine?
Eh bien, le goût qui a marqué ma semaine, c'est les haricots. Les haricots, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, mais le haricot, les pimpoles qui viennent d'arriver.
Coco.
Les cocos de pimpoles, c'est un plat que j'aime. Les pimpoles, ça me rappelle un petit peu quand on travaillait en apprentissage. On faisait ça au mois de juillet, août, suivant la saison. Et avec une belle saucisse, c'était un régal. On faisait revenir un petit peu à la graisse de doigt, oignon, ail, persil, les haricots. On les cuisait au moins une heure avant. Et après, on les faisait mijoter. Et là-dessus, on mettait une belle saucisse grillée ou un confit.
On le voit, le cassoulet de Christian Constant, champion du monde du cassoulet toulousain. Il est là, hein?
Oui.
Il va continuer à le faire, Cyril Lignac, ce cassoulet, ou pas?
Oui,
vous lui avez filé la recette?
Oui, il m'a demandé la recette. Ah. Mais je pense que je vais augmenter un peu le prix.
Alors, il y en a un qui n'aurait raté ce rendez-vous. Vous pour rien au monde. Il a appris son métier avec vous. Il n'y a pas une émission ou presque sans qu'il ne parle de Monsieur Constant. C'est Yves Candebord qui est à côté de vous. Yves, vous avez hérité de la lourde tâche aujourd'hui de décrire la cuisine de Christian Constant pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la goûter. Alors
Laurent, je peux vous dire que ce n'est pas une lourde tâche. C'est un vrai honneur. Voilà. C'est une vraie fierté. Voilà. Et je pense que quand on parle cuisine, la chose la plus importante, c'est la goûter pour en parler.
Et vous avez fait justement un plat que vous avez appris avec Christian Constant.
Je me suis levé ce matin avant de prendre le TGV de très bonne heure.
Absolument.
Et j'ai réalisé un des plats emblématiques. C'est peut-être l'une des premières recettes en 1988 qui nous a dit qu'on allait réaliser au crayon à la carte des ambassadeurs. Alors, je vais vous surprendre.
À l'œil.
Regardez-le.
À l'œil, on dirait une macédoine de légumes.
C'est une macédoine de légumes.
C'est
la macédoine de légumes de Christian Constant.
Surtout que la macédoine, c'est quelque chose qui peut être clivant. Hein. C'est des mauvais souvenirs pour certains d'entre nous. Elle a souvent été galvaudée, mal cuisinée. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la macédoine de Monsieur Constant?
Mais c'est justement pour ça qu'il nous a dit, je me rappellerai toujours, j'étais avec Eric Fréchon tous les deux quand on était en train de préparer la première carte de l'hôtel Crillon. On était parti avec Eric pour empiler le foie gras, la truffe, le filet de bœuf. On était parti pour faire une démonstration technique de notre savoir.
Et produit noble.
Et il nous a dit, les gars, on va faire une macédoine. Alors on l'a regardé, on lui a dit, attendez, on se disait, mais il perd la boule. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous a dit, laissez-moi faire, je vais vous faire voir. Avant de vous dire comment on l'a fait,
on va
la déguster. Mmh. Je peux vous dire, c'est quelque chose. Quand vous êtes dans le bureau de l'hôtel Crillon, que vous préparez la carte pour essayer d'épater la France entière et épater la gastronomie parisienne. Commencer par une macédoine, c'est...
Il y a de la texture, il y a du croquant.
Comme un goût de pomme.
Il y a de la pomme.
Ah, ça sent la pomme. Il y a un petit peu de pomme.
Et la magie de ça, ce qu'il nous a expliqué, il nous a dit, vous allez voir. On va faire goûter ça aux gens.
Je suis tombé sur du homard, moi.
Qui vont être surpris. Mais de suite, le souvenir, l'enfance, faire voyager, créer du bonheur, créer de l'émotion. Alors bien sûr, la macédoine qui nous a faite, elle n'était pas authentique au grand classique qu'on peut retrouver dans la gastronomie française. Voilà, il nous a fait mettre de l'acidité.
La pomme granny, là, qui est dans la macédoine.
L'acidité, la longueur de bouche, de l'avocat, et quand même au crayon, un peu de homard. Et les convives, les clients qui arrivaient, qui prenaient ça, c'était un émerveillement. Parce qu'il y a la surprise de ce plat que tout le monde connaît, qui est assez simple, et ce plat instantanément qui nous amenait à voyager. Et ça, c'est la cuisine de Christian Constant.
Donc là, on est en plein dans le respect de la tradition et on est dans la transmission en même temps, Christian Constant, parce que vous inventez quelque chose, vous revisitez, comme on dirait, presque un plat aujourd'hui, mais en étant sur les codes techniques de la base.
Voilà, c'est un petit peu de la cuisine classique qu'on apprend en apprentissage quand on débute le métier et puis après, on le transforme à son goût, à sa valeur et dans l'état, dans le lieu où on travaille. Au crayon, bon, on l'a amélioré, on a mis des médailles d'or. Omar, si je me rappelle bien, à un moment donné aussi, on mettait un peu de sauce réfort, un peu, on avait donné un peu de visuel à cette macédoine et le goût l'emportait sur les clients.
Et on le voit bien, c'est de la simplicité, mais c'est des goûts francs aussi.
C'est des goûts francs, parce que la cuisine de Christian Constant, c'était bien sûr du visuel, mais c'était pas la chose la plus importante. L'importante, il nous parlait que de goût.
C'est ça.
Fallait que ce soit bien présenté, mais surtout ce qui nous a transmis la tradition française. Il nous a dit on ne va pas la rogner. La gastronomie française, elle est là depuis des siècles. On va la respecter parce qu'on va l'ennoblir, on va lui donner un côté contemporain, on va utiliser le passé pour créer le moment et surtout préparer l'avenir.
Eh bien, on va en parler de cette transmission. On va préparer l'avenir avec vous, Christian Constant. Ne bougez pas, on revient sur votre parcours en cuisine avec des surprises pour vous. Ce sera juste après ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi sur Europe 1. On écoute Francis Cabrel avec ses petits chemins de traverse et on revient juste après dans le Médoc.
Moi je marchais les yeux par terre, toi t'avais toujours le nez en l'air, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare, on n'était pas loin d'une gare, c'est le hasard qui l'a voulu. Et tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte, on a pris le premier chemin venu. Et quand la nuit est tombée sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville, on n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines comme de vraies fêtes foraines, sans même penser au retour. On s'est perdu dans les nuages comme les oiseaux de passage, à suivre les filles d'un jour. Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait les chemins de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et quand la nuit tombait sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville, on n'entendait que les notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. Et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile, sous la pleine lune immobile.
C'était Francis Cabrel et ses chemins de traverse sur Europe 1. Et nous, on se régale avec la macédoine du chef Constant. Et on la boit avec un vin blanc qui va bien avec, chère Ophélie Neyman.
Mais oui, on nous a versé une cuvée, le Cygne, du château Foréau. Alors, château Foréau, c'est la deuxième propriété hein, de Loïc Chanfraud,
qui est notre hôte, qui nous reçoit.
Qui nous accueille. Et voilà, encore une fois, la preuve qu'un blanc de Bordeaux, ça peut être délicieux. Il y a beaucoup de Sauvignon, il y a un peu de Sémillon et de Muscadelle. C'est élevé sous bois, il y a un boisé qui est assumé vraiment dans ce vin.
C'est
Alors, qu'est-ce que ça va bien avec la Macédoine hein, ça donne fait. Quelque chose de roulant, de vibrant, ça la porte un petit peu, ça l'enveloppe, ça la caresse.
Ça relève bien, ça ouais, va très très bien.
Ça marche
et même avec
bien.
Le poisson, je suis sûr qu'avec le homard, ça doit aller très
Certainement.
Bien.
Oui, ça marche bien.
Ou un autre poisson.
Du couteau à la fourchette, c'est un artiste complet qui a su transmettre son art. Le chef Christian Constant est notre invité ce samedi à la table des bons vivants. Il laisse les clés de son dernier café parisien, le Café Constant, à Cyril Lignac cette semaine. Jusqu'au 30 septembre, jusqu'à la fin du mois, on peut aller déguster ce menu qui a été mis en place avec votre bande. On parlait de la bande à Bébel du conservatoire. Il y a la bande de Constant aussi, avec le chef Candebord, Éric Fréchon, Jean-François Piège, Christophe Felder, Emmanuel Renaud. Tous ces amis qui étaient avec vous mardi hein, pour cette soirée inaugurale.
Exactement, on a accueilli quelques journalistes et ils sont venus revoir un petit peu ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et je pense que la cuisine a évolué pour eux, mais ils ont gardé quand même les mêmes traditions.
Alors c'est bien que vous en parliez parce que vous étiez tous réunis, je le disais, mardi soir au Café Constant dans le 7e arrondissement de Paris, à côté de la Tour Eiffel, autour d'un menu de retrouvailles. Nous étions là, Marion Sauveur était là, Julien Amat aussi, et nous avons demandé à vos poulains ce qu'ils ont gardé de cette époque. Écoutez bien, gardez le casque sur les oreilles, chef Constant. Dans l'ordre, Éric Fréchon, ensuite Jean-François Piège et Christophe Felder.
À moi, les 7 années que j'ai passées à l'hôtel Crillon, je suis arrivé donc adjoint avec Yves Candebord auprès de M. Constant, tout jeuneau. Je dis toujours, il m'a appris de la cuisine, mais aussi autre chose que la cuisine, c'est de sortir de cette réserve de Normands en fait. De communiquer, de partager, le partage surtout, les Normands on est très réservés. J'ai l'impression de rentrer dans une équipe de rugby en fait. Alors qu'un Normand c'est hyper discret, donc l'équipe de rugby c'est on pousse tous ensemble et après on va tous faire la fête ensemble.
Toute ma vie je me souviendrai du premier jour où j'ai dit bonjour à Monsieur Constant. Ça fait aujourd'hui 35 ans qu'il est là tout le temps dans ma vie professionnelle. C'est une philosophie de toujours vouloir faire plaisir aux autres, d'être généreux et de régaler, parce que notre métier c'est faire plaisir et de régaler. On essaye de continuer, sans faire de mauvais jeu de mots, d'être constant.
Est-ce qu'à Christian, il aidait beaucoup tout le monde en fait? Il aidait tout le monde, du plongeur qui faisait, voilà, ou qui aidait au banquet. Il donnait un coup de main à tout le monde, et ça c'est quand même rare. Un grand chef qui te donne un coup de main, et toi t'es tout jeune, tu démarres et t'es dans la merde. Ça te reste toute la vie.
Pas de différence, Christian Constant, c'est un collectif.
Ah ouais, c'est énorme, ce qu'ils disent là, c'est impressionnant.
Vous êtes ému, hein ?
Ah ouais, un peu.
Ça vous plaît, et moi j'aime beaucoup ce que dit Éric Fréchon, en fait, vous l'avez dégrossi, comme on dirait Éric Fréchon, c'est vrai qu'il est arrivé, comme il dit, avec sa timidité de Normand, ouais, ce côté un petit peu pudique, et ce que vous avez mis comme humain dans vos relations avec votre équipe et votre collectif, ça lui a fait du bien, en fait.
Ah ouais, ça l'a débridé, quoi, on va dire, mais Candebord y a été pour beaucoup, pour ça, l'esprit rugby qu'on avait. Non, mais il a participé avec moi parce que c'est un gars du Sud-Ouest. On avait l'esprit d'équipe et c'est important d'avoir, quand vous êtes chef, parce qu'un chef tout seul n'est rien, d'avoir de bons lieutenants, d'avoir du bon personnel, que ça parte de la plonge au cuisinier, en salle.
Mais vous avez reproduit l'esprit du rugby en cuisine, j'ai l'impression, quand j'entends tout ce que disent ces chefs, Yves.
Oui, c'est la phrase assez basique. Tout seul, je vais vite, mais à plusieurs, je vais loin. Mais après, la chose peut-être humainement, parce que culinairement parlant, pour en parler pendant des jours et des jours et des jours, quoi. C'est un énorme cuisinier qui, tout le monde le sait, avait des fondations exceptionnelles.
Et on a confirmation avec le pâté en croûte de Christian Constant qui vient d'arriver.
Mais humainement parlant, on venait tous, on se rendait compte, Jean-François Piège, Éric Fréchon, Emmanuel Renaud, Thierry Breton, Yves Candebord, on venait tous d'horizons différentes, on était tous des caractériels, quand même tous dans notre style, et il a su nous amener tous ensemble, mais sans nous dénaturer. On n'a jamais eu une monopensée imposée. On a pu être nous-mêmes, dire ce qu'on pensait. On a pu s'engueuler, discuter, batailler pour la même envie, le bonheur du client. Et quand on se retrouve tous ensemble, on est tous différents. Et on sait qu'on a été élevé par quelqu'un qui a conservé notre personnalité, qui ne nous a pas mis dans une marmite avec un couvercle sur la tête pour qu'on ait cette monopensée.
Pas formaté. C'est quoi le secret ?
La liberté. Il nous a laissé notre liberté.
Alors, c'est la patience ?
C'est la patience. Et puis d'abord, c'est des garçons qui en voulaient, quoi. Ils ne regardaient pas les heures. Ils travaillaient énormément. Le secret, c'est que laisser un petit peu de liberté sans les lâcher totalement, et faire en groupe, quoi. Voilà, c'est ça la recette. Et puis, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir une super équipe, quoi. Voilà.
Une autre surprise pour vous, Christian Constant. Vous l'avez formé aussi en quelque sorte. On va dire que vous lui avez formé le palais. C'est notre ami du déjeuner. Il fait partie de la bande depuis le début de cette émission. J'y tiens beaucoup. C'est Jean-Luc Petit-Renaud. Et il a un message pour vous, le camarade Jean-Luc.
Moi, je pense que tu te doutais que j'allais te dire un petit mot, bien entendu. Il y a une chose qui hante les nuits de Christian Constant, toutes les nuits, c'est le fait qu'il fasse une daube qui n'est peut-être pas aussi bonne que celle de Denise Constant, sa maman. Et c'est vrai que pour un petit gars qui a fait le Ritz, qui a été chef du Crillon, dirigeant une centaine de cuisiniers, ben uniquement se poser cette question en fin de carrière, de dire « Mais est-ce que ma daube était à la hauteur ?» Oui, Christian, ta daube est à la hauteur de celle de Denise, je te le jure. Et jamais j'oublierai. Ta maman, le jour où je vous ai fait tourner à Toulouse, tous les deux, chacun faisait sa daube, et ta maman a goûté ta daube, t'as dit, et elle a dit, « Oh, elle est bonne la sienne, elle est bonne, mais je pense que la mienne est meilleure.
» C'est vrai, ça ?
Ah ouais, c'est vrai, de toute façon, Jean-Luc ne raconte pas de bêtises.
Jamais.
Non, non. Et c'est vrai qu'à Toulouse, on a tourné plusieurs fois avec lui. Et j'avais fait un cassoulet, c'est pareil, chaque fois que je faisais quelque chose, elle venait, elle goûtait, mais elle disait, mais quand même, moi, c'est meilleur.
Mais vous cherchez encore aujourd'hui, vous avez jusqu'à présent cherché à reproduire ces goûts-là de votre enfance, ceux des recettes familiales de votre
exactement,
maman.
Exactement, je pense que la base de la cuisine, c'est de faire un petit peu... D'où vient l'amour du métier, c'est ce que je mangeais à la maison, c'est mes repas d'enfance. Et après, je suis parti en cuisine. Et quand je me rappelle les goûts, comme Jean-Luc l'a dit, l'adobe, tout ça. J'ai essayé de la recopier et puis de la faire. Prenez de la joue de bœuf. Moi, je ne connaissais pas ces morceaux-là à l'époque. Elle mettait beaucoup de carottes. Elle mettait de la couenne. Elle cuisait au vin rouge. Elle ne liait pas. Elle ne mettait pas de farine ou un soupçon. Et c'était la réduction du vin rouge qui faisait que la sauce se liait, qu'elle était bonne. Elle se levait le matin de bonne heure. Le lendemain, elle se relevait. Elle le relaissait compoter, cuire. Et le goût sucré, c'était les carottes. Il n'y avait pas besoin de tellement de sel. Il y avait l'échalote et la couenne qui faisaient le reste, quoi. Un peu de poivre était terminé.
Et tout ça pour créer des souvenirs. On en parle encore aujourd'hui. C'est ça, la cuisine. C'est de l'émotion. C'est ce qu'on est en train de vivre, là, en réécoutant tous ces gens que vous aimez aussi.
Exactement. Ça me fait énormément plaisir de les entendre et puis de me rendre cet hommage. C'est énorme parce que c'est quand même... pas des petits cuisiniers.
Et c'est pas fini. On se retrouve dans un instant avec le plat du jour. Le vôtre, Christian Constant, ça va vous plaire, chers auditeurs. Vous aurez la recette même sur europe1.fr. La fameuse tarte au chocolat de Christian Constant. La vraie, l'officielle. Elle sera là juste après les titres d'Europe Midi Weekend avec Thomas Lequertier. A tout de suite, ne bougez pas.
Hein. Vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Depuis 11h, nous sommes à Listrac-Médoc, au château Lestage, au milieu des vignes. On a fait un tour sur le marché de Bordeaux. On n'a pas mis d'eau dans notre vin, hein, pour parler des vendanges 2021 et des foires au vin avec Ophélie Neyman. Et nous revoilà avec le chef Christian Constant, qui fait un passage de relais avec Cyril Lignac au Café Constant, sa dernière adresse parisienne. Et le chef, Candebord, est à vos côtés. Il était impossible qu'on soit ici ensemble sans qu'Yves Candebord soit là. Mais je crois qu'il ne me parlerait plus à vie.
Je pense que j'aurais été fortement vexé. D'ailleurs, je dois reconnaître et je dois m'excuser et remercier Lucie Escourou parce que je lui ai mis une petite pression par rapport à ça.
Oui, notre rédactrice en chef, parce qu'il était question qu'on fasse l'émission ailleurs et tout
sans
ça.
Sans moi.
Effectivement, sans vous. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on déborde cela.
Je ne serais pas venu.
Mais voilà, il ne serait pas venu, vous voyez. Donc, un partout, la balle au centre. Vous avez ouvert les hostilités mardi soir dernier au Café Constant, Yves Candebord, justement, avec ce menu des retrouvailles, hein, tous ces plats emblématiques du Crillon qu'on va pouvoir goûter au Café Constant jusqu'à la fin du mois de septembre à Paris. Comment ça s'est passé, alors ?
Ce qui s'est passé, ça a été en fin de compte avec une tranquillité, une simplicité, une gentillesse. Éric Fréchon est arrivé, Jean-François est arrivé, Cyril Lignac nous a rejoint parce qu'il voulait être là pour la transmission. Christophe Felder, mon chouchou préféré, était là. Et Quand on est ensemble, on se regarde dans les yeux, on a pratiquement des larmes aux yeux parce qu'on a vécu d'une telle intensité humaine entre nous, voilà, à l'hôtel Crillon à l'époque, que c'est une réunion de famille, voilà, sans parler de vieux combattants, mais simplement des amis qui se retrouvent et on a notre père qui est là. Et pour vous dire la vérité, Laurent, on n'arrive pas à imaginer. Aucun de nous n'arrive à imaginer. Monsieur Constant, quelque part, voilà, il a fait sa carrière. Et on lui rend un hommage. On n'y croit pas. Moi, j'arrive pas à penser, voilà, que je vais pas la voir tous les jours au téléphone. J'espère qu'on va encore savoir au téléphone.
Bien sûr.
Mais évidemment. Mais il est là et puis vous allez voir. Il va aider les jeunes, comme il l'a dit. Il va aider la jeune génération. Il va faire du vélo du côté de Biarritz aussi, parce qu'il aime bien ça.
Il faut s'entretenir quand on arrête. Et puis il va falloir s'occuper parce qu'à un certain âge, après plus de 70 ans, si vous faites pas un peu de sport, on craque vite parce qu'on aime bien manger, on boit.
Eh ben tiens, on va goûter votre pâté en croûte. Ça, c'est une de vos valeurs sûres aussi, Christian Constant. On est venu avec, on va tout dire à nos auditeurs, on est tous partis ensemble de Paris ce matin avec le TGV, avec une énorme glacière de Christian Constant. Et à l'intérieur, il y avait ce pâté en croûte.
Et pas que.
On va pas tout dire, mais elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pâté en croûte alors?
Alors, il y a du riz de veau, il y a du foie gras, il y a du canard, du porc et un peu de pistache. Sel, poivre et puis l'assaisonnement Porto.
Délicat l'assaisonnement.
Oui.
Subtil. C'est du dosage, ça c'est voilà. Compliqué, hein. c'est un art, c'est entre la charcuterie et la grande voilà. Cuisine. Là.
C'est un joli mélange, mais après, par exemple, le porc, le veau, le canard qu'on a mis dedans, il a mariné la veille, ces recettes-là, on ne peut pas les bouger. C'est facile quand vous avez la bonne recette, que vous avez les bons éléments, les bons produits, et après, il ne faut surtout pas tricher, il ne faut pas s'amuser à y mettre autre chose que les ingrédients premiers.
Il y a une autre recette que vous ne pouvez pas bouger non plus. C'est votre mythique tarte au chocolat. Et pareil, on l'a emporté avec nous ce matin. Et alors là, je crois que Monsieur Constant a dit tout le long. Attention, bien à plat les gars, bien à plat la glacière. Surtout, attention, il ne fallait pas renverser cette magnifique tarte au chocolat qui a fait le chemin avec nous. C'est une pâte chocolatée aussi,
oui,
cacaotée.
Exactement, c'est une pâte brisée, légèrement cacaotée. Et à l'intérieur, il y a une ganache avec chocolat noir, chocolat blanc. Et ensuite, un joli glaçage. C'est une tarte que l'on faisait au crayon. Et c'est Christophe Felder qui avait donné un peu la recette, mais je l'ai rectifiée quand même.
Eh ben tiens,
avant... On l'appelait tarte au chocolat.
Tarte au chocolat. Christian Constant. Eh ben on l'écoute, tiens, justement, Christophe Felder, chef pâtissier qu'on connaît avec son livre magnifique autour de la pâtisserie, entre autres. Eh bien, il a un petit mot sur l'art de découper un gâteau ou une tarte. Écoutez.
Un geste que je me souviens bien, couper un gâteau, ça paraît facile. Hein. Tu sais, les cuisiniers, ils utilisent le couteau beaucoup mieux que nous. Quoi. Ils coupent le saumon et tout ça. Et il m'avait montré comment couper un gâteau en chauffant le couteau avec de l'eau bouillante et tout ça, c'était c'était nickel. C'est le geste qui compte parce que c'est prévu au dernier moment et ça c'est la manière de tenir le couteau, ça m'est toujours resté ça.
Et il n'y a pas qu'à lui que c'est resté. Racontez ce qui se passe là, Christian Constant.
Yves Cannebord est en train de découper la tarte au chocolat et il y a un récipient, un bro. Et il met le couteau dedans et l'eau est bien chaude, justement pour pas que le chocolat, quand on tranche la part de chocolat, se sépare, quoi. Sinon ça coule, puis mais c'est pas
bon. Ce qui est exceptionnel dans ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est simple, c'est juste un petit conseil, mais on est tous habités par ça. Systématiquement, quand on coupe une tarte au chocolat, quand on trempe le couteau dans l'eau, on se dit quoi?
Et ça fait toute la différence parce qu'on a des parts qui sont bien découpées, voilà, qui sont franches et nettes.
C'est net, voilà.
C'est net et propre. Alors à l'intérieur, on va en parler, il y a une ganache effectivement. La ganache, on le sait, en général, c'est de la crème avec du chocolat noir fondu et du beurre. Mais là, elle est différente, la vôtre.
Ouais. C'est jaune d'œuf, sucre, lait et de la crème. Moitié lait, moitié crème.
Il y avait une histoire de crème anglaise aussi à
l'époque.
Après,
ça c'est l'intérieur, mais la ganache, on fait fondre le chocolat au bain-marie, et ensuite on met la crème anglaise que l'on mélange dans le chocolat blanc et noir. Et ensuite on le met à l'intérieur de la pâte. Voilà, mais on pré-cuit bien sûr la pâte sablée au chocolat, on l'a pré-cuit avant, on verse
l'appareil par-dessus,
et on le glace avec le glaçage au chocolat.
Ophélie Neyman, est-ce que vous avez déjà eu la chance de goûter la tarte au chocolat de Christian Constant ?
Eh bien, je pourrais dire oui dans une minute.
C'est ça, mais c'est la première fois. C'est une première fois. Mais vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et chers auditeurs, ça c'est vraiment pour vous, c'est un cadeau. Elle est en ligne sur europe1.fr pour les auditeurs de la table des bons vivants avec cette belle tarte au chocolat. Et je vais la goûter aussi. Elle est belle, alors on va la décrire déjà. Effectivement, elle est brillante. Elle a une pellicule, un voile qui est brillant, qui est nappant et a un intérieur qui est magnifique, qui est entre ferme et tremblotant, on pourrait dire. Et alors là, on est noir, c'est noir, hein, comme chantait Johnny, parce qu'on est, vraiment sur des couleurs intenses, franches et vives. Alors.
Oh là là.
Ah oui.
C'est pas mal.
Mais ça peut être écœurant parfois, la tarte au chocolat, hein, quand c'est trop.
C'est vrai.
Et là, il y a juste cet équilibre incroyable.
Le joli dosage.
On a envie d'y retourner et on se régale à chaque bouchée.
Mais
chaque bouchée est complète, mais il faut y retourner quand même.
Elle est magnifique.
Oh, ouais, merci.
C'est bon. On est dans le Bordelais, tiens, Ophélie Neyman, qui vient d'engloutir une quatrième part de tarte au chocolat.
Parlez.
Mangez tranquillement. On a le temps, on est ensemble jusqu'à midi et demi. Qu'est-ce qu'on boit avec la tarte au chocolat de Christian Constant?
Normalement, alors c'est compliqué, hein, parce que le chocolat et le vin, il y a plusieurs écoles. Une des écoles les plus classiques, c'est les vins doux naturels, les Mory, les Banyuls, tous les vins un petit peu mutés, qui vont être sucrés et rouges, avec pas trop de tanins, mais effectivement beaucoup de richesse. Je ne fais pas partie de cette école-là, parce que je trouve que parfois ça a tendance à écraser le dessert, et ça me gêne, et puis parfois c'est un peu lourd, et du coup on n'a pas envie de terminer. On a aussi les grands Bordeaux. C'est vrai qu'un Bordeaux un peu patiné, alors surtout pas de tanin parce que ça va assécher et avec l'amertume du chocolat, ça va en faire trop. Mais il y a des Bordeaux, quand ils sont en souplesse, qui fonctionnent très bien. Là, je vous ai proposé autre chose, dont on parlera plutôt dans la chronique, qui est un vin de pays qui a été fait dans le Roussillon et qui est presque un rosé plus.
Ah.
Alors, ça donne ce côté un peu sucré, un petit peu rond, mais léger quand même, ce qui fait que la tarte au chocolat passe au-dessus. Et là, c'est ce qui compte. Je trouve que la tarte au chocolat, elle est en majesté. Et il faut qu'elle soit au-dessus du vin.
Eh bien, gardez-en sous le pied. On revient dans un instant, justement, avec le chef Constant, Christian Constant. Ici, nous sommes dans le Médoc, au château Lestage. Et on revient pour les 2 minutes du vin, très sud-ouest d'Ophélie Neyman. A tout de suite, et bon samedi midi, et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi à table avec nous. Vous connaissez l'histoire de Christian Constant. Il est monté du sud-ouest à Paris. Eh bien aujourd'hui, il est redescendu de Paris dans le sud-ouest. Il est avec nous ici dans les vignes du Médoc. Tout se passe bien, Christian ?
Très bien, très bien. Je croyais que vous alliez m'amener dans un château d'eau, mais c'est un joli château.
avec de beaux Médocs.
J'adore.
Château Lestage, Listrac Médoc, avec ce fameux 2016 que vous pouvez trouver dans les foires au vin Intermarché actuellement. On parlait de votre passion tout à l'heure pour le rugby. Avec le sens du collectif et de la transmission, de savoir passer la balle, ce que vous faites en ce moment au Café Constant avec Cyril Lignac. Il faut aussi savoir transmettre et le guide Michelin ne s'est pas trompé. Il vous a remis un très beau prix en 2018, hein, le prix Mentor.
Oui, le mentor de la transmission. Quoi, voilà. Je ne sais pas si je le méritais, je n'ai jamais eu... Non, mais la transmission, il y a beaucoup de chefs qui...
Moi, je pense que vous le méritez pas. Je ne sais pas pourquoi vous l'ont donné.
C'est vrai qu'il n'y a personne qui est sorti de vos écuries.
Non, mais il y a beaucoup de chefs qui transmettent aussi, je pense encore. Mais bon, ça fait énormément plaisir. C'est une récompense.
Il y a
une
différence entre transmission et mentalisé. Il faut que vous compreniez ça. Ouais. Vous l'avez compris.
C'est quoi la différence ?
La différence, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la liberté. La différence. C'est la liberté. C'est être capable de faire ce que j'ai fait en 92, de lui dire et que j'avais une voie tracée pour aller dans une grande maison, pour être chef. Comme Éric Fréchon, on lui a dit, écoutez, on s'en va, on va monter des bistrots. Éric a monté la Verrière, moi j'ai monté la Régalade. Et vous savez ce qu'il nous a dit ? Les gars, vous avez raison, vous allez y arriver.
Et il a fait pareil, il a remonté des bistrots juste après, il a récolté encore des étoiles.
Laissez faire les gens, vous les éduquez, vous les accompagnez et vous les laissez faire, vous les laissez vivre.
Les aider.
Nous sommes au milieu des vignes dans le Médoc, un endroit parfait pour nous parler de vin, Ophélie Neyman. Et on va parler vin et soleil. Alors on sait que le vin a besoin de soleil, mais parfois ça peut être compliqué et ils ne s'entendent pas toujours très bien ou en tout cas, il faut faire des changements.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on voit effectivement les températures monter sur les vignobles. Alors, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Hein. Demander aux vignerons qui plantent en ce moment de la vigne en Bretagne ou en Île-de-France, ça a parfois des bienfaits. Le problème, c'est là où il fait déjà chaud. Moi, je voudrais mentionner une étude d'un chercheur de l'INRAE qui est économiste, qui est directeur de recherche à l'Université de Bordeaux, qui travaille un peu avec Axel Marshall,
qui était avec nous tout à l'heure. Ouais.
Tout à fait, c'est Éric Giraud-Hérault. Il a fait goûter des Saint-Émilion à des consommateurs avec parmi les échantillons ce qu'on appelle un vin de demain. En fait, un vin qu'on rencontre déjà très souvent dans les dégustations, c'est-à-dire plus concentré, plus mûr, avec plus d'alcool. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au premier verre, il était très apprécié, tout le monde le trouvait très bon. Mais quand il le faisait goûter sur 3 jours, l'envie d'acheter la bouteille s'effondrait totalement.
Ah mince alors, ça veut dire que ce sont des vins qui plaisent sur le moment, mais on s'en lasse vite, on n'en redemande pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Parce que c'est compliqué.
Ben oui, c'est un problème, parce que ça veut dire que les gens ne rachètent pas, ça veut dire qu'ils ne boivent pas, le vin c'est fait pour être bu. Alors on s'adapte. Dans le Languedoc-Roussillon, dans le sud-ouest, on a déjà vu des gens qui s'adaptent avec pour but de produire des vins qui sont toujours bon, mais un peu plus léger, en dessous de 14 degrés d'alcool, quoi, moins confituré. Alors, on peut évidemment choisir des cépages mieux adaptés aux grosses chaleurs. Le vin que je vous ai apporté, là, il fait 13 degrés alors qu'il vient du Roussillon.
Et on le boit avec la tarte au chocolat de Christian Constant et ça marche bien. Hein.
Et ça marche très très bien parce que justement, il a beaucoup de légèreté et surtout, il a beaucoup de fraîcheur.
Oui, il se boit absolument en apéritif. L'idée, c'était de recréer un vin convivial. Il s'appelle le rétro parce que c'était le vin qu'on buvait autrefois, le vin que le père du vigneron buvait. Alors, parmi les cépages, on trouve du carignan, du grenache, hein, typique du Roussillon, mais aussi un cépage espagnol, le liadonner, qui est plus léger et moins coloré que le grenache.
Ça veut dire qu'on va devoir planter du Trempanillo de la Rioja à Bordeaux, par exemple?
Alors le Tempranillo, pas forcément. Heureusement, il faut quand même garder la typicité des régions, hein, comme on le disait. On ne peut pas non plus faire monter n'importe quel cépage. Mais on peut replanter des cépages locaux qui ont été délaissés à une époque parce qu'ils ne mûrissaient pas assez, justement. Alors en Gascogne, on peut citer le Mansan Noir, qui fait des vins à 11 ou 12 degrés. Et puis à Bordeaux, ici, on a le Petit Gerdeau, hein, qui n'est plus beaucoup exploité, mais qui apporte énormément de fraîcheur au vin, qui est un vrai atout pour demain. Parce que les chercheurs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin le disent, les jours sont peut-être comptés pour le Merlot, qui représente quand même la moitié du vignoble aujourd'hui.
Eh oui.
Donc il va falloir y penser.
Il va falloir trouver autre chose. Ici, nous sommes dans une dominante de Merlot et de Cabernet Sauvignon.
Alors on est à 40 mètres d'altitude.
C'est ça.
Ce qui est haut pour le Médoc et ce qui permet quand même d'apporter un peu de fraîcheur et ce qui permet
justement
de préserver du Merlot.
40 mètres d'altitude, dont les Vosges. Dis donc. Vous plaisantez. Vous préparez votre sortie tout le mois de septembre, Christian Constant, dans votre beau café Constant rue Saint-Dominique à Paris. On l'a dit, vous avez fait le lancement mardi avec des amis cuisiniers. Vous passez les clés à Cyril Lignac, hein, qui avait envie d'avoir ce joli bistrot de la rue Saint-Dominique. Vous êtes content que ce soit lui qui reprenne l'adresse ?
Bien sûr. Je suis très fier que ce soit lui parce que c'est un très bon cuisinier. C'est vrai, c'est un cuisinier médiatique, mais avant tout, un vrai cuisinier. J'ai fait Top Chef avec lui pendant 5 saisons et j'ai vu qu'il savait travailler. Pour moi, c'est la relève assurée. Et puis, je suis fier de partir en laissant l'auberge à quelqu'un qui va savoir la tenir et qui va faire la même chose ou dans la même continuité que ce que je faisais.
Dans la même veine, avec la même exigence, parce que c'est quelqu'un d'exigeant, Cyril Lignac. Et on lui a demandé justement à Cyril ce qu'il vous souhaitait pour la suite. On l'écoute.
Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à découvrir, j'ai envie de dire, la vie. Quand tu as un restaurant, c'est quelque chose à laquelle tu as collé sur ta peau. C'est-à-dire qu'il faut, tu y penses tous les jours, tu cherches des recettes. C'est quelque chose qui est vraiment fixé en toi. Donc j'ai envie de dire qu'il profite, quoi, tout simplement. Et qu'il revienne avec moi faire la cuisine.
Il est gonflé quand même, lui demande de profiter.
Il reprend l'affaire et il veut reprendre le chef.
Vous auriez pu couper ça quand même.
Ben non, on n'a rien coupé. Vous allez lui refiler un coup
de main. Bien sûr, avec plaisir. Il m'a demandé. Non, mais
vous lui avez filé la recette du cassoulet.
Ouais,
déjà, hein.
Beaucoup de recettes. Je vais lui donner qu'il va me demander.
Alors, Christian Constant, vous connaissez bien l'émission. Je sais que vous nous écoutez souvent le samedi.
Tout à fait.
Et ben voici la tradition. C'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Et on va commencer avec cette fameuse question. Quel est le goût de votre enfance, Christian Constant ?
Alors, le goût de mon enfance, quand j'étais très gamin, j'avais un grand-père et il avait une tonnelle. Excusez-moi. Voilà, il avait une tonnelle et il y avait des raisins. Et il me faisait goûter sur du quignon de pain. Il y avait toujours, vous savez, le pain de campagne, il y avait le quignon. Il le frottait avec un petit peu d'ail. il mettait un peu d'huile d'olive et il me faisait goûter le raisin avec. C'était fabuleux. Et ça, c'est un goût vraiment de mon enfance. Et il me faisait goûter un peu de vin avec des fois.
Ah, voilà. Merci, papy. Votre plus beau repas, Christian Constant ?
Alors, le plus beau repas, c'est le repas de mon mariage. Ça a duré 3 jours.
Ah oui ?
Ouais,
confirme.
J'ai fait le premier repas au Violandingue, le deuxième repas au Crayon et le troisième chez Yves Cannebourne. Voilà, donc je peux dire que c'était les plus beaux repas
c'est
de ma vie.
C'est un banquet marathonien, voilà, ça c'est beau. Voilà. Et votre pire repas ?
Alors encore Cannebourne, il va dérouiller. Il y avait Jean-Luc Petit-Renaud qui faisait une émission, une émission télévisée. Et j'étais au Crayon comme chef, il y avait Fréchon et Cannebourne qui était avec moi à table. Le téléphone sonne et c'est Jean-Luc qui m'appelle, il m'appelle. Il me dit, tu te rappelles, tu dois m'amener ton plat. Oh, j'ai dit oui, on arrive, parce que c'était en direct. Et il me dit, il faut que tu sois là dans 10 minutes, un quart d'heure. Le plat n'était même pas fait. J'ai dit à Yves, il y avait des œufs brouillés, des cuisses de grenouille. Il s'est mis à poêler 2-3 cuisses de grenouille. Je pense qu'il va prendre le relais parce que c'est lui qui a dérouillé après.
Et alors, la suite ?
C'était pour un... Yvan Rebroff, je crois.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et qui adorait les cuisses
un
de grenouille.
Un grand chanteur, oui.
Un grand chanteur. Ouais. Donc, on devait faire un plat de cuisses de grenouille, mais en 10 minutes, chrono en main, et être arrivé.
Et le livrer
au studio Gabriel, on ne pouvait pas. Donc, on est parti, on a fait les œufs brouillés. Eric a fait les œufs brouillés. J'ai pris des cuisses de grenouille crues et on y est parti. Mais on est arrivé dans l'émission, on a posé, j'ai même pas eu le temps de leur dire faites gaffe, les cuisses de grenouille sont crues, on n'a pas pu le dire. Et donc, il a mangé.
Yvan Rebroff les a mis dans la bouche et comme
puis,
ça.
Voilà, puis il les a pris, il a fait le geste.
Ouais, il les a mis au fond de la gorge et il a tiré, il n'arrivait pas à.
Mais non, c'était pas cuit.
C'est pas cuit. Et il n'a rien dit, il a dit c'est vraiment fabuleux la cuisine de Crayon. Je le remercie encore.
Ah, merci, Yvan Rebroff. Quel est le plat que vous auriez aimé inventer, Christian Constant ?
Bah, si je dis le cassoulet, ça ne serait pas marrant, mais la bouillabaisse. J'ai un faible pour la bouillabaisse. C'est un plat que j'aurais aimé inventer, c'est sûr.
Et pour qui avez-vous été le plus fier de cuisiner ?
Alors, pas une personne, c'est l'équipe de rugby de France. L'équipe de France de rugby, pardon, quand ils venaient au Crayon, j'ai été fier. Il y avait une dame qui s'appelait Madame de Buisson, qui est décédée, et qui invitait souvent ses joueurs de l'équipe de France, parce qu'elle savait qu'on était passionnés de rugby, c'est elle qui les invitait. Et nous, avec Yves, qui est passionné comme moi de rugby, on s'est fait un plaisir, on dépassait un peu le budget.
Et le plat que vous continuerez de cuisiner, même à la retraite ?
Alors, à la retraite, je ne sais pas si je m'arrêterai, quoi. Mais le barbecue, par exemple, j'adore faire la cuisine au barbecue. Je prends des côtes de bœuf, du poisson. Et puis, en même temps, on peut surveiller le barbecue et faire l'apéro. C'est génial.
Ça, c'est bien, on est d'accord. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Christian Constant.
Alors, je dirais que le bonheur soit entre la fourchette et le couteau.
Ah, ben on prend. Merci beaucoup et on vous applaudit ici au Château Lestage, dans le Médoc. Merci d'avoir fait la route avec nous, Christian.
Merci à vous.
Merci, c'était une belle émission. On était heureux de vous avoir.
J'espère que vous n'oublierez pas que je serai à la retraite.
On va venir goûter votre cuisine au Café Constant, repris par Cyril Lignac dans le 7e arrondissement de Paris. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou à la rédaction en chef, Julien Amat, Marion Sauveur à la rédaction. Merci Loïc Chauffreau de nous avoir reçus au château Lestage. Merci pour ce bel accueil. Buvez avec plaisir et avec modération aussi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous retrouverez les recettes sur europe1.fr, c'est la même adresse pour le podcast. Rendez-vous demain à 11h, vous le savez, pour notre nouveau rendez-vous sur Europe 1, la table du dimanche autour de Cadmérade, et on sera avec la chef aubergiste Flora Mikula. Et puis dans un instant, c'est Europe Midi Week-end avec Thomas Lequertier. En attendant, merci à Benjamin De Santis, Olivier Duval et Thomas Roussel, la fine équipe technique qui nous a permis de délocaliser cette émission. Bon week-end sur Europe 1, mangez bien et bon appétit et large soif, comme
oui, disait oui,
Monsieur Paul. Voilà. Merci chef.
Merci.
Merci.
Merci.